Sarah, bienvenue sur le Live Info.
Aujourd'hui dans la chronique Je suis dans la peau 2, Samuel va nous présenter l'acteur principal de Terminator.
Bonjour à tous, je vais me mettre dans la peau d'Arnold Schwarzenegger dans le premier Terminator. Bonjour, vous me connaissez peut-être car j'ai été dans ma jeunesse Mister Univers et aussi gouverneur de Californie de 2003 à 2011. Si ça ne vous revient pas, je suis aussi T-800 alias le Terminator de James Cameron. Et oui, j'ai tourné avec ce très célèbre réalisateur, mais je suis sûr que vous le connaissez. Il a réalisé les très célèbres films Alien, Titanic et Avatar. C'est un des géants de la réalisation cinématographique à Hollywood. Pour l'histoire de ce film, je vais vous la présenter. Tout se passe en 2029, donc un futur qui est assez proche de l'année actuelle. Une guerre a éclaté entre machines et humains. Et pour l'instant, c'est les machines qui dominent le monde. Mais les humains se combattent courageusement. Et Terminator, alias moi, j'ai été envoyé dans le futur pour tuer Sarah Connor, qui va mettre au monde plus tard un enfant qui va mener la rébellion des humains contre les machines.
Dans cette ville... Dans l'ombre propice de la nuit, quelqu'un est à la recherche de Sarah Connor.
Sarah Connor ?
Oui. Sarah Connor, âgée de 35 ans, a été sauvagement exécutée chez elle.
T'es mort, chérie ?
Qu'est-ce que c'est ? Ah,
un deuxième cadavre.
Sarah Louise Connor. Pas possible.
Nous vous donnerons d'autres détails sur ces meurtres dans notre prochain journal.
Elle ne le sait pas encore, mais c'est elle qui veut tuer.
Et un général humain, qui s'appelle Kyle, va m'empêcher de la tuer. Il y arrivera à la fin du film pour payer de sa vie.
L'un est venu pour la sauver. J'ai traversé le temps pour toi, Sarah. L'autre, pour la supprimer.
Tant que je suis là, je vais vous raconter une ou deux anecdotes sur ce tournage de ce super film. Tout d'abord, sachez que ce tournage s'est fait dans l'une des plus belles villes des États-Unis, Los Angeles. Le budget utilisé pour ce tournage a placé le film dans le film qui a coûté le plus cher dans l'histoire dans l'industrie cinématographique. 102 millions de dollars. Je vous avais bien dit que James Cameron n'est pas un petit joueur. Je vous conseille donc de regarder ce superbe film. Je vous dis à bientôt et surtout, un nouveau film, une nouvelle nostalgie.
Arnold Schwarzenegger est le Terminator. Une apparence humaine, mais un corps d'acier.
Maintenant, nous passons sur le forum des métiers qui a eu lieu le 28 février au collège. À vous, Samine Soelina.
Quel métier vous a plu ?
Bah, tout d'abord, je vais peut-être présenter les métiers auxquels j'ai eu lieu. Alors, j'ai participé avec un ingénieur informatique qui m'a présenté du coup son métier. Du coup, leur rôle, c'est principalement de créer des outils pour faciliter la vie des autres ingénieurs dans une boîte de jeux vidéo, par exemple. Ensuite, j'ai vu un responsable technico-commercial dans le bâtiment. Et pour finir, je regardais un journaliste. Et celui qui m'a le plus plu, ce serait l'ingénieur informatique.
Pourquoi ?
Bah, parce que son métier est intéressant. Que j'adore l'informatique et voilà.
Ses avantages ?
Les avantages, c'est que c'est un boulot moins stressant et que ton travail risque pas d'être mis à la poubelle car vu qu'ils créent des outils, les maçons ou les trucs comme ça jettent leurs outils à la poubelle. C'est assez rare.
Quel métier vous a déplu ?
Vu que je n'aime pas énormément le commerce, c'est pas un milieu auquel je me projette. Plus tard, le responsable technico-commercial.
Quel point négatif ?
Le stress et la gestion. Je suis un peu nul en maths.
Avez-vous trouvé des idées d'orientation ?
Pas vraiment. Principalement dans le design de jeu, c'est principalement ce que je voulais faire plus tard. Mais voilà.
Sais-tu dans quel établissement cette orientation a lieu ?
Non, pas encore.
Et maintenant, nous écoutons les interviews d'une militaire et d'un ingénieur éolienne. Nous sommes en présence d'un ingénieur éolienne qui est là depuis des années au Forum des métiers. Qui êtes-vous ?
Alors bonjour, je m'appelle Maxime Coulan, je suis ingénieur dans l'éolien. J'ai 45 ans, je fais ce métier dans l'éolien depuis 15 ans. Auparavant, j'étais dans une autre branche, dans l'automobile. Et je suis ingénieur mécanique de formation.
Avez-vous vu des évolutions dans les forums des métiers au fil des années ?
Au fil des années, oui. Parce que moi, je ne présente pas exactement la même chose parce que mon métier évolue. Déjà d'une part, et ensuite j'ai constaté aussi que au collège Gaston Doumer, il y a de plus en plus de parents qui interviennent pour présenter leur métier. Donc je vois que ça plaît beaucoup aux parents de présenter les métiers aux élèves et aux camarades de classe de leurs propres enfants.
Et est-ce que vous avez un message à nous faire passer sur les gens qui voudraient devenir ingénieur éolienne ?
Alors oui, j'en ai beaucoup. Donc ingénieur, moi c'est le métier que j'ai choisi il y a maintenant plus de 20 ans. C'est un métier passionnant pour les gens qui aiment découvrir le monde, qui aiment la technique, qui aiment inventer des choses, qui aiment apprendre tout au long de leur vie. Donc c'était mon cas et c'est les raisons principales qui m'ont fait choisir ce métier. C'est un métier où on peut en plus évoluer dans sa vie, on peut changer de branche. Moi par exemple j'ai d'abord travaillé dans l'automobile puis dans l'éolien. C'est un métier qui peut me permettre aussi de voyager, découvrir d'autres pays, d'autres cultures. C'est pour ça que pour avoir un diplôme d'ingénieur en France, on impose d'avoir un niveau d'anglais correct. Et grâce à ce niveau d'anglais, même minimal, ça vous permet de découvrir énormément de pays. Dans mon cas, moi j'ai été dans beaucoup de pays d'Europe et même sur d'autres continents.
Merci beaucoup pour votre interview. Nous sommes maintenant au réfectoire avec une capitaine de l'armée de l'air pour lui poser quelques questions pour en savoir plus. Qui êtes-vous ?
Alors bonjour, je suis une réserviste de l'armée de terre, c'est-à-dire que j'ai terminé de travailler pour l'armée il y a quelques années et maintenant je reviens comme réserviste, donc de quelques jours de temps en temps, quand l'armée a besoin de moi.
Ok, pourquoi êtes-vous ici ?
Je suis ici parce que je veux parler de l'armée de terre aux enfants du collège pour leur donner des idées sur leur futur, les futurs métiers qu'ils aimeraient faire plus tard.
Et est-ce que vous avez un message que vous voulez faire passer ?
Alors oui. Je voudrais faire passer le message que dans l'armée, on peut faire toutes sortes de choses, qu'il y a une très très grande diversité de spécialités, mais qu'il faut surtout faire beaucoup de sport et être en bonne forme physique et en bonne santé. Voilà.
Et les auditeurs, vous savez qu'il va peut-être y avoir des uniformes au collège ? Oui, oui, des uniformes au collège. Gabriel Attal, le Premier ministre, en a parlé il y a peu de temps et certains collèges vont l'expérimenter bientôt. Comme à BG, alors moi, Numa, aussi Sarah, Saminsu et Lina, nous allons vous présenter nos avis, nos idées et nos opinions. Pour ou contre l'uniforme au collège ? C'est parti !
Bah moi, c'est très simple, je suis à fond pour. En premier, j'adore en porter. Je vous explique, je fais partie de la classe défense et j'appartiens aussi aux scouts, les éclaireurs et éclaireuses de France. Et dans les deux, je porte toujours un uniforme. Et moi, franchement, j'adore ça car cela me donne un sentiment de fierté. De tous être habillés pareil, on est ensemble et soudés, on est unis et beaux quand on est en uniforme.
Non mais ça va pas du tout. Ce que tu dis pour moi, c'est impossible. Être fier de porter le même vêtement que les autres, c'est trop triste. Ça n'a aucune personnalité. Non mais sérieux, vous imaginez ? Ça nous fait ressembler les uns aux autres, comme si on rentrait dans des cases.
Alors moi, franchement, je suis un peu d'accord avec vous deux. D'un côté, je suis d'accord avec toi, Sarah. Ça peut être super beau en uniforme. Et en plus, ça peut éviter les discriminations, les moqueries entre élèves.
Alors là, Numa, je suis carrément d'accord avec toi. T'as tout à fait raison. Souvent, les discriminations, ça peut partir d'un tout petit détail, comme un sweat ou un t-shirt. Moi, par exemple, on m'a pris la tête pour une paire de chaussures orange que j'adore et qui sont trop stylées.
Mais d'un autre côté, ça fait quand même beaucoup d'argent que l'État va dépenser. Un uniforme, ça coûte 200 €, et entre le nombre d'élèves et le fait qu'on grandit, vous imaginez l'argent dépensé ? Du coup, l'État, c'est sûr, les impôts vont augmenter.
Aujourd'hui, dans la rubrique insolite, je vous propose une fête maintenant réputée, un bâtiment surprenant et quelques prénoms bien croustillants. Chaque 15 août, le village de Bèze, en Bourgogne, accueille une orgie gustative qui se conclut par le concours de la plus rapide mangeuse d'andouille enfarinée. Une spécialité au cours de laquelle chaque participante doit avaler le plus rapidement possible 1 kg 200 g de tripes recouvertes de farine, le tout avec les mains attachées dans le dos. Super, mais ce sera sans moi. Bizarrement, l'épreuve attirait de moins en moins de candidates. Tu m'étonnes. Les organisateurs étant tentés de remplacer l'andouille par une pâtisserie appelée andoubaise, nettement plus ragoûtante. À noter que les fonds ainsi récoltés lors de cette fête sont reversés aux associations qui viennent en aide aux enfants atteints de maladies orphelines. C'est vrai que cette fête m'inspire plus le dégoût qu'autre chose, mais au moins, elle sert à quelque chose. Deuxième info insolite. À Milan, en Italie, Alex Chinek, un sculpteur britannique, a remodelé toute une façade d'immeuble de façon à créer une fermeture éclair XXL recouvrant tout un pan de mur. Elle laisse croire que cette première est dézippable. Ce qui donne une impression très réaliste et amusante, comme un vêtement géant. Dernière info incroyable. Quand vous apprenez que le prénom Nutella existe, vous n'en croyez pas vos oreilles. Mais là, vous n'imaginez même pas ce que je vais vous faire découvrir. Je vous ai concocté une liste de 10 prénoms qui font partie des plus bizarres en France, mais qui existent vraiment. Accrochez-vous, voilà la liste. Vitaline. Triton. Mac. Hannibal. SpongeBob. Paprika. Charlie, Rose, Megan. Et oui, c'est bien un seul prénom. Soda. Vercingétorix. Oui, mais bon, c'est démodé depuis 82 avant Jésus-Christ. Génisse. Si vous ne le saviez pas, la génisse est la femelle du taureau. Et voilà, c'est là que vous vous rendez compte que vos prénoms sont quand même vachement cool. Merci de m'avoir écouté, c'était Lucine et je vous dis à la prochaine.
Aujourd'hui, je vais vous parler de la danse, un sport connu de tous et qui en fait rêver plus d'un. On va découvrir ensemble une incroyable danseuse du nom de Sylvie Guillem. Elle est une danseuse française née en 1965 à Paris. Elle est l'étoile du ballet de l'Opéra National de Paris et du Royal Ballet de Londres, à l'âge de 19 ans, à l'issue d'une représentation du Lac des Cygnes. Je vous explique. Le titre d'étoile pour un danseur ou une danseuse, c'est très important. C'est une consécration et un honneur. D'ailleurs, elle est considérée comme l'une des plus grandes ballerines au monde. En 2015, elle met malheureusement fin à sa carrière de danseuse à 50 ans, par une tournée mondiale d'adieu qui se conclut le 31 décembre par une représentation à Tokyo. Chers auditeurs, d'habitude, la deuxième partie de notre podcast se consacre aux Jeux Olympiques à travers ce sport. Mais malheureusement, et c'est une particularité, il n'y a pas ce sport aux JO. Tous les amateurs de la danse vont me détester. Mais pour vous consoler, je vais vous raconter l'histoire de la danse comme vous ne l'avez jamais entendue. C'est parti. Selon les historiens, l'existence de la danse remonte probablement à la préhistoire. La danse classique est l'un des styles de danse les plus anciens, mais la façon dont elle est née est relativement méconnue. Elle a été pratiquée depuis des milliers d'années pour célébrer des rites religieux ou culturels ou pour simplement offrir une forme d'expression artistique. La danse est le premier des arts. La musique et la poésie s'écoulent dans le temps. Les arts plastiques et l'architecture modèlent l'espace. Mais la danse vit à la fois dans l'espace et le temps, dit d'ailleurs Kurt Sachs, un spécialiste de la musique. Bien que la danse fût importante en Égypte ancienne, c'est avant tout en Grèce que cet art obtint une place de premier plan. Qui s'y attendait ? Les danseurs de la civilisation grecque pratiquaient les danses religieuses, des danses de religion, mais aussi des danses lyriques ou encore dramatiques. Voilà pour ce podcast Parlons Danse. Merci et à bientôt.
Merci pour toutes ces rubriques passionnantes. Nous nous retrouvons plus tard pour un nouveau Live Info.